on apprend une langue, l'une des choses les plus difficiles, ceux qui ont appris des langues pourront sans doute le confirmer, ce sont les faux amis, surtout si on apprend une langue qui n'est pas radicalement différente de la nôtre. Les faux amis, ce sont ces mots qui sont quasiment les mêmes d'une langue à l'autre, mais qui veulent dire quelque chose de complètement différent. Et ça peut conduire à bien des confusions. Par exemple, il se peut, c'est rare, mais il peut arriver qu'un ami, qu'un frère ou qu'une sœur anglophone qui courageusement commence à apprendre le français, dans un élan fraternel, nous dise « que Dieu te blesse, mon frère ». Parce que « bless », bien sûr, en anglais, ça veut dire « bénir ». Que Dieu te blesse. Peut-être que finalement, ce vœu peut avoir du sens. Parce qu'il n'est pas si rare que les bénédictions que Dieu donne soient accompagnées d'une forme de blessure. Et c'est le cas dans le texte que nous allons lire ensemble ce matin. Et je vous invite à lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. Dans les Bibles bleues, c'est à la page 40, pour ceux qui voudraient suivre le texte dans ces Bibles. Il y en a une ou deux par banc. Genèse, chapitre 32, à partir du verset 1. Jusqu'au chapitre 33, verset 4. Donc, quelques minutes déjà dans la lecture de ce texte. Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit. Puis il partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu !» Et il appela cet endroit Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent vers Jacob en disant, « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ce qui était avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait, « Si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit, « Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je peux former deux camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau devant toi ?» Tu répondras, « À ton serviteur Jacob. C'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. « C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. » Vous annoncerez aussi, « Ton serviteur Jacob vient derrière nous. » Il se disait en effet, « Je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Jusqu'ici la lecture de la parole. Dans cet épisode, Jacob, l'homme qui lutte, rencontre le Dieu vivant et il sort de cette rencontre blessé, mais transformé. Nous avons là, à mon sens, l'un des textes les plus mystérieux et les plus profonds à la fois de l'Ancien Testament. Alors pour essayer de comprendre à la fois son sens et sa portée pour nous, on va y réfléchir en 3 temps. D'abord l'homme qui lutte, puis le Dieu qui lutte et enfin la blessure qui libère. L'homme qui lutte d'abord. Jacob est un homme qui lutte depuis le début. Ça a même commencé in utero, au chapitre 25, alors que sa mère, Rebecca, est enceinte de lui et de son frère Ésaü. Il nous est dit que les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, verset 22. Et puis, lors de la naissance, Jacob sort en agrippant le talon de son frère aîné. Donc ça promet, dès le début. Et si vous étiez là lorsqu'on a évoqué les épisodes précédents dans l'histoire de Jacob, il y a quelques semaines, vous vous rappellerez la suite. Jacob a fait preuve de ruse et de tromperie pour subtiliser à son frère le droit d'aînesse, quelque chose qui était extrêmement important à l'époque. Et puis non seulement cela, mais il est allé même encore plus loin en se faisant passer pour son frère Ésaü pour voler, c'est bien comme ça que ça s'est passé, de son père Isaac la bénédiction qu'Isaac comptait donner à son frère aîné Ésaü. Derrière ces péripéties familiales qui peuvent sembler très lointaines de notre réalité, de notre contexte, il y a un enjeu qu'il ne faut pas perdre de vue, un enjeu en fait tout à fait incomparable. Jacob est le petit-fils d'Abraham, l'homme que Dieu a choisi pour être le fondateur d'un peuple racheté, l'homme à qui Dieu a promis qu'il serait, que par lui et par sa descendance, il apporterait un jour une bénédiction à des hommes et des femmes du monde entier. Et donc au-delà de la bénédiction du père, Isaac, il y a la bénédiction de Dieu. Il y a cette détermination de Dieu à faire du bien à des gens du monde entier. Or, pendant toute une partie de sa vie, Jacob va chercher cette bénédiction de Dieu, mais il va la chercher par ses forces, par ses ressources, par ses efforts et par ses ruses aussi. Et je me demande si, dans un sens, ce n'est pas la tendance de chacun. Nous avons tendance à vouloir nous saisir par nos efforts de la bénédiction de Dieu. Alors tous ne l'exprimeraient pas comme ça, bien sûr, a fortiori ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais n'est-ce pas finalement cela qui se passe au fond ? Chacun a tendance à vouloir justifier sa vie, d'une certaine manière, en fonction de ce qui a la plus haute valeur pour lui. Donc si par exemple c'est la famille, l'être aimé, le conjoint, les enfants, si c'est cela qui définit notre vie, eh bien nous allons chercher à justifier notre existence en fonction de cela. L'affection, l'amour de ce conjoint, de cette famille, vont être ce qui va définir notre vie. On va chercher à définir notre vie ainsi. Si c'est le travail, l'argent, le statut social, alors de même on va chercher à définir notre vie par ces choses-là. On va essayer de trouver notre identité, justifier notre existence par ces choses-là. Mais au fond, N'est-ce pas la bénédiction de notre Créateur que nous recherchons tous? N'est-ce pas cette assurance que notre vie a du sens dans l'absolu, pas seulement en fonction de ce que nous pouvons faire ou paraître ou produire, mais parce que nous sommes qui nous sommes en fonction de notre identité? Or, qui peut nous donner une identité absolue sinon notre Créateur lui-même? Jacob, en tout cas, recherche la bénédiction de Dieu, mais il cherche pendant des années à l'arracher par ses efforts, ses combines. En fait, il cherche à tenir sa vie à bout de bras. Sa vie, son avenir, le sens de sa vie à bout de bras. Et c'est épuisant. Et peut-être que certains, ce matin, vivent quelque chose de cet épuisement. La lassitude qui vient d'être sans cesse en train de passer un peu entre les mailles de la vie pour continuer à tenir la route, pour que la vie continue d'avoir du sens. C'est épuisant. Et le texte de ce matin nous montre un Jacob qui est arrivé au bout de ses tentatives pour maîtriser son destin. Il vient de quitter son oncle Laban dans des circonstances très délicates. Ça ne s'est pas trop mal terminé finalement, mais c'était très délicat. Il se dirige vers son pays natal, mais pour y aller, il doit passer par chez son frère Ésaü qui voulait le tuer 20 ans plus tôt. Bonjour l'ambiance dans la famille, mais ça Jacob est un peu habitué. Et là encore, on voit que Jacob va essayer de s'en sortir. Alors dans un sens, l'attitude qu'il adopte ici est juste. C'est-à-dire qu'il va essayer d'apaiser son frère par une attitude d'extrême humilité. Verset 5, vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Sous-entendu, tu peux avoir cela s'il le faut, si tu veux. Et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jacob fait profil bas. Et en appelant Ésaü son Seigneur, on peut même considérer que dans un sens, il renonce implicitement à ce fameux droit d'aînesse qu'il avait volé et qui a occasionné sa fuite. Donc on a envie de dire dans un sens tout ça pour ça. Et là, quelle est la réponse des messagers? Verset 7. Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Alors c'est sûr, quand vous apprenez qu'on marche à votre rencontre avec 400 hommes, c'est pas très rassurant, surtout dans le contexte. Et là, Jacob en est réduit au quasi-désespoir. Il s'imagine qu'Ésaü, 20 ans plus tard, lui en veut toujours, veut le tuer, et divise sa famille en deux pour qu'au moins la moitié soit sauvée. C'est ce qu'on voit au verset 8 et 9. Jacob en est arrivé au bout de ses forces et il va faire ce qu'il semble avoir très peu fait jusque-là. Il va prier. On a là la prière la plus longue du livre de la Genèse. Il prie, il comprend que cette fois, il ne s'en sortira pas sans Dieu. Et il va s'appuyer sur les promesses que Dieu lui-même lui a données. Verset 10, « Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance. » Verset 13, « C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. » On a là un exemple frappant d'une prière biblique, d'un modèle biblique de prière. Jacob s'appuie sur ce que Dieu lui a dit, il s'appuie sur les promesses de Dieu pour intercéder auprès de Dieu. Et dans la Bible, la prière s'appuie presque toujours sur ce que Dieu a révélé de lui-même et de ses projets. Donc prier, ce n'est pas parler dans le vide en espérant que, qui sait, quelqu'un entendra peut-être. Mais prier, c'est entrer en dialogue avec celui qui a parlé le premier, celui qui s'est révélé, celui qui adresse à l'homme des promesses. Jacob rentre d'un long exil géographique, mais surtout d'un long exil spirituel. Mon père m'a dit un jour quelque chose qui m'est resté, il m'a dit « Être au cœur de la volonté de Dieu, c'est être vraiment chez soi. » Jacob est en train de rentrer chez lui. Et nous, est-ce que nous avons besoin de venir, pour la première fois peut-être, pour certains, ou de revenir en quelque sorte au cœur de la volonté de Dieu et d'arrêter de lutter, pour toujours donner du sens, de lutter pour essayer de trouver par nous-mêmes la satisfaction à laquelle nous aspirons. Jacob, l'homme qui lutte, va enfin capituler par cette prière. Il est prêt à rencontrer Dieu. Et cette rencontre va avoir lieu, mais certainement pas de la manière à laquelle Jacob s'attendait. C'est notre deuxième point, le Dieu qui lutte. Dans le célèbre film Forrest Gump, l'une des scènes les plus marquantes, c'est celle où le lieutenant Dan rejoint Forrest de retour au pays et il monte avec lui dans son petit chalutier. Et là, dans une scène un peu biblique, le bateau est pris dans une tempête et le lieutenant Dan, qui a perdu ses deux jambes au Vietnam et qui s'est laissé ensuite aller à une vie de déchéance, s'attache au mât du bateau à l'avant et il se met à hurler face à la tempête. « Vas-y Dieu, plus fort! C'est tout ce que tu as à proposer? Tu appelles ça une tempête? Tu crois que tu pourras m'avoir comme ça ?» Et Forrest décrit la scène quelques années plus tard par ces mots. « Je crois que le lieutenant Dan a fait la paix avec Dieu ce jour-là. » C'est un petit peu ce qui se passe dans notre texte. On a ici une scène qui est empreinte de mystère. Le mystère, en fait, commence au début du chapitre lorsqu'il nous est dit, presque en passant, que Jacob rencontre des anges, verset 2. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas du tout habituel ou normal de rencontrer des anges dans la Bible. C'est un aperçu exceptionnel de la dimension céleste et invisible dans le monde visible. Jacob a déjà eu un premier aperçu de cette dimension céleste 20 ans plus tôt, à Bethel, lorsqu'il a eu une vision de la présence de Dieu et qu'il a reçu une promesse pour son avenir. Et 20 ans après, alors qu'il arrive dans ce lieu qu'il va nommer Mahanaïm, cette rencontre furtive et mystérieuse avec des anges nous laisse penser que quelque chose d'extraordinaire va se passer. Et c'est un peu plus tard, après avoir prié, alors qu'il se retrouve seul, que Jacob va faire l'expérience la plus marquante de toute sa vie. Verset 25. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Qui est cet homme? Pourquoi lutte-t-il avec Jacob? Lorsqu'on découvre ce texte, on est surpris. C'est le mystère. Le combat n'en finit plus, l'aube s'approche et ce mystérieux personnage va déboîter la hanche de Jacob. Jacob est frappé au cœur même de ce qui lui permet de lutter. À ce moment-là, le combat devrait être terminé. Le lutteur ne peut plus lutter. Mais c'est ici que la vie de Jacob va changer. Cette bénédiction, cette paix, cette identité qu'il a cherché toute sa vie à saisir par ses propres efforts, eh bien cette fois, il va la demander par la foi. Alors le texte est subtil parce que Jacob s'accroche encore. Mais ce n'est plus pour lutter. Il ne cherche plus à vaincre son adversaire. Il est arrivé au bout de lui-même. Et ce qu'il avait déjà commencé à faire par la prière, il le confirme maintenant. Il demande la bénédiction de Dieu. « Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. » Verset 27. Jacob semble avoir compris, au moins dans une certaine mesure à ce stade, qu'il fait face à un personnage qui n'est pas un simple homme. Et cette impression se confirme lorsque son adversaire lui donne un nouveau nom qui redéfinit son existence. Verset 29. « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Et il ajoute « Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. » Et tu as été vainqueur. Un peu comme un père qui laisse son enfant gagner lors d'un jeu, l'homme mystérieux déclare Jacob vainqueur. Mais il faut bien comprendre que si Jacob est vainqueur ici, ce n'est pas par la force ou l'effort, sa hanche est déboîtée, on ne peut plus se battre. S'il est vainqueur, s'il a prévalu, c'est par la foi. Une foi opiniâtre. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Jacob demande à son adversaire son nom, lui-même vient de révéler le sien. Et la réponse de son adversaire doit nous faire trembler. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Verset 30. Celui avec qui Jacob a lutté est insaisissable. Ici, il révèle à Jacob son identité, celle de Jacob, mais pas la sienne. Mais implicitement, indirectement, il révèle quand même l'indicible. Tu as lutté avec Dieu, verset 29. Et Jacob lui-même conclut au verset 31, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. On a plein de questions face à ça. Et précisément, je crois qu'il faut respecter le mystère de ce qui s'est passé. Il y a une part d'insaisissable, c'est tout le sens de ce texte. Mais pour Jacob, les choses sont claires. C'est Dieu qui l'a rencontré. Dieu aurait pu rencontrer Jacob de tout un tas d'autres manières, par une vision spectaculaire, par un message prophétique. Mais au lieu de cela, il est venu à sa rencontre, dans sa réalité, et dans un sens, il est venu participer à sa lutte. Comme s'il disait, tu veux lutter, Jacob ? On peut lutter. Et 2 millénaires plus tard, à peu près, c'est le même Dieu qui est venu dans notre condition, non pas pour une rencontre furtive de quelques heures, mais en se faisant homme jusqu'au bout, en faisant sa demeure parmi nous, en s'abaissant pour vivre nos luttes et nos souffrances jusqu'à être cloué sur une croix, pour subir à notre place la condamnation de nos offenses contre lui. Dieu est venu à notre rencontre en chair et en os. C'est l'affirmation centrale de notre foi. Et toutes ces choses qui nous font honte ou qui nous font souffrir, nos fautes, nos épreuves, nos déceptions, nos drames, tout cela, Jésus est venu les affronter. Et lui-même, il est allé jusqu'au plus profond de nos ténèbres pour nous en délivrer. Mais ce Dieu qui a consenti à venir vers nous, souffrir pour nous, est aussi celui qui nous frappe au cœur même de notre fierté, notre illusion d'indépendance, et qui, dans un sens, nous blesse pour pouvoir nous libérer. Une blessure qui libère, c'est mon troisième point. Dans l'un de ses ouvrages, l'auteur chrétien Brennan Manning décrit une rencontre qu'il a vécue dans le cadre de l'association Alcoolique Anonyme. Lui-même avait un problème vis-à-vis de l'alcool, il en parle très honnêtement dans ses livres. Et donc il parle d'une de ses rencontres et d'un participant qui venait de se joindre au programme, mais qui manifestement estimait n'avoir rien à faire là. Il était semblait très assuré, il donnait le change, il laissait entendre que, bien sûr, il avait pu boire un peu à l'excès, ici ou là, mais qu'il n'y avait vraiment pas de problème, pas de quoi en faire tout un plat, qu'il était là à cause de sa femme, et qu'il avait sa vie parfaitement sous contrôle. Et pourquoi perdre son temps ? Il garde cette attitude pendant un certain temps. Mais l'animateur du groupe sentait qu'il y avait une toute autre réalité derrière cette façade. Donc il le pousse. Et finalement, un jour, l'homme s'effondre. Et il confesse une faute terrible. Quelque temps auparavant, il a laissé sa petite fille dans sa voiture pendant des heures, en plein hiver, pendant qu'il buvait dans un bar. Elle a survécu, mais a dû être amputée de plusieurs doigts, a perdu une partie de sa capacité auditive. Et Manning décrit cet homme qui avait été tellement confiant, brusquement sanglotant par terre. Mais l'animateur l'aide à se relever. Et c'est un homme nouveau qui se relève, profondément brisé, mais en même temps libéré, prêt à demander pardon à sa famille, prêt à guérir et à changer. Dans cette lutte avec Jacob, Dieu le frappe symboliquement à l'articulation qui lui permet de lutter. Il n'y a rien de plus décisif que la hanche, que la capacité de pouvoir bouger la jambe pour pouvoir lutter au corps à corps. Jacob, le lutteur, ne pourra plus lutter. Et il va devoir, du coup, s'en remettre à Dieu et implorer sa grâce. Donc Dieu désarme Jacob, le place face à l'évidence de sa faiblesse. Et dans cette situation d'extrême faiblesse, Jacob va enfin se tourner vers lui et demander sa bénédiction. Non seulement il obtient cette bénédiction, mais il obtient un nouveau nom, une nouvelle identité, la possibilité d'un nouveau départ. Et on ne peut pas passer à côté de la symbolique poignante du verset 32. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Jacob ressort de ce combat épuisé et blessé. Mais le soleil se lève. C'est un jour nouveau qui commence. Est-ce que Dieu va devoir venir nous blesser pour nous libérer de l'illusion que nous pouvons vivre nos vies sans lui ? Est-ce qu'en voulant à tout prix protéger la maîtrise de notre vie, peut-être tout en confessant une pleine foi en Christ, est-ce qu'en voulant à tout prix protéger notre maîtrise de nos vies, nous sommes en train, en fait de tourner le dos à notre Créateur? Où est-ce que nous avons accepté la blessure libératrice que Christ nous inflige? Il est venu nous frapper en plein cœur de notre fierté, notre détermination à être indépendant de son autorité. Il nous invite à une vie nouvelle. Mais cette vie nouvelle, elle passe par une blessure. Elle passe même, nous dit la Bible, par une mort. Écoutez ce que dit Jésus, Matthieu 16, versets 24 et 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Et Dieu dit à l'apôtre Paul, qui le supplie de le libérer d'une douloureuse épreuve, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » De Corinthiens 12, 9. Les apparences sont souvent trompeuses. Ce qui peut apparaître comme de la force est souvent une faiblesse déguisée. Il n'y a rien de pire pour l'homme que l'illusion de sa force. Dans un sens, c'est ce qui est à l'origine de tous les drames humains, l'illusion de la force. C'est pour cela aussi que Jésus-Christ est venu manifester sa puissance, non pas dans le fracas d'une victoire spectaculaire qui frappe les yeux, mais par l'humiliation et la souffrance de la croix, où derrière une faiblesse apparente, il a défait les liens qui nous gardaient asservis sous le jugement de Dieu. Au cœur de sa souffrance, Jésus a révélé pour nous la puissance de Dieu, une puissance de libération et de réconciliation. Et le début du chapitre 33 confirme que Jacob n'est plus le même homme. Il s'avance avec humilité, mais sans crainte, vers Ésaü, et il va avoir la démonstration flagrante de la bénédiction de Dieu qu'il vient de demander. Parce que si Ésaü est venu avec 400 hommes pour le rencontrer, ce n'est pas pour le tuer, mais pour le protéger. Et les deux frères ennemis vont se réconcilier de façon tout à fait inattendue. Et dans ce récit, il y a une image en miniature de ce que Dieu a fait à grande échelle, sur le long terme, dans l'histoire humaine. Il a donné sa bénédiction à Israël, le nouveau nom donné par Dieu à Jacob, puis à ses descendants, au peuple de ses descendants, Israël. Mais cette bénédiction est source de réconciliation pour toutes les nations. C'est précisément ce qui a été promis à Abraham, Isaac et Jacob. Ésaü est considéré comme le père fondateur d'Édom, peuple païen et ennemi. Sa réconciliation avec Jacob, Israël, est profondément symbolique. Quand on rencontre Dieu, quand on reçoit sa bénédiction et son pardon, on trouve là non seulement la source de la réconciliation avec Dieu, mais aussi la source de réconciliation avec les hommes. C'est ce que nous révèle le Nouveau Testament. En faisant la paix avec Dieu, nous avons la puissance de réconciliation pour faire la paix entre les hommes. Et 2000 ans environ après Jacob et Ésaü, Dieu a ouvert grand la porte de sa bénédiction pour toutes les nations, comme il l'avait promis, en envoyant Jésus pour qu'il fasse cesser nos luttes et qu'il nous invite à trouver une nouvelle identité en lui. Mais bien sûr, nous devons nous assurer de ne pas mettre d'obstacle à cette œuvre de transformation. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu va devoir défaire, démettre dans notre fonctionnement? Qu'est-ce qu'il va devoir démettre en nous pour que nous puissions recevoir sa bénédiction douloureuse et entrer pleinement dans ce jour nouveau qui se lève? Et si nous le devancions en renonçant dès maintenant à ses illusions d'autonomie pour nous confier entièrement à lui ?